OK, on est de retour. C'est le quatrième essai de notre match en compagnie de Jean Carrier et Stéphane Cadorette. Les gars, ça va être des questions en rafale. Répondez-moi le plus succinct possible, s'il vous plaît. Si vous êtes capable par oui ou par non, allez-y. Alors, on va commencer par une facile, OK? Les Raiders ont gagné en fin de semaine. Ils ont battu Kansas City. Est-ce qu'ils ont tout en main pour se rendre au Super Bowl?
Non et non. C'est ça la vraie réponse. J'aime beaucoup les Raiders offensivement. J'aime aussi, tu sais, il y en a qui se demandaient si John Gruden était capable de coacher encore. Je pense qu'il est encore, il est en train de le prouver. Mais défensivement, même s'ils ont eu un bon match contre les Chiefs, il y a encore beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Puis ça va faire en sorte qu'ils vont perdre des matchs. La question est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour se rendre en série?
Ouais, ça, c'est plus ça. Là.
C'est beaucoup plus ça pour moi, la question. Puis moi, je dirais que oui, mais ça va prendre encore des gros matchs là, des Raiders.
Les Raiders n'ont pas tout pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Moi, je seconde Jean là-dessus. Défensivement, des grosses questions encore. Puis, écoutez, c'est une victoire énorme contre les Chiefs. Là. Ils ont été vraiment exorcisés leurs démons. Ça faisait des années qu'ils se faisaient piler d'en face par les Chiefs. Mais je pose une question, si c'était un 2-3, un 3-5, un 4-7, prendriez-vous les Raiders? T'sais, sincèrement, c'est arrivé et ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser, que c'était une équipe sérieuse, mais je pense pas qu'ils ont ce qu'il faut, ne serait-ce que lutter avec les Chiefs. Puis t'as d'autres clubs là, dans cette conférence-là qui sont d'autant plus sérieux. T'sais, il faut pas oublier que les Raiders ont perdu contre les Bills. Il y a les Titans du Tennessee qui sont très crédibles, il y a les Ravens de Baltimore, les Steelers de Pittsburgh. C'est une grosse conférence. On assiste, je trouve, à un retour en force de la conférence américaine qui, pendant quelques années, ça a été un petit peu l'affaire d'une ou deux équipes maximum. Je pense que là, ça va être une grosse conférence. Là, ça va être dur de passer à travers.
Est-ce que Tom Brady s'est compté jusqu'à 4?
Oh boy. Moi, je dirais que oui. Ça, pour moi, c'est, il a compté jusqu'à 4 toute sa vie. Tu sais, fait que je vois pas pourquoi il serait plus capable. Moi, je pense qu'il y a eu une amnésie temporaire.
J'ai trouvé ça pénible de voir ça à la fin de la game parce que s'il y en a un qui est au courant de chaque situation, d'où chaque joueur doit être, d'un brin de gazon qui est plus long qu'un autre à gauche puis qu'il faut pas s'enfarger dedans, c'est bien Tom Brady. Ça a fait pitié de voir ça vraiment, là, de voir toute la confusion. Puis c'était drôle à la fin du match de voir Bruce Arians dire non, il savait exactement que c'était un quatrième essai. Puis Brady qui a esquivé un peu la question. Écoutez, là, admettez-le, là, c'est une erreur flagrante de jugement dans le moment. Là. Ça arrive dans les meilleures familles, mais c'était pas très beau à voir.
Et ça montre que dans des situations de pression, il n'y a pas juste un carrière de secondaire 3 qui peut se tromper. Le plus grand des carrières de l'histoire, fort probablement, il vient de se tromper dans un moment important.
Il y a beaucoup de bons enseignements de Tom Brady qui pourraient être enseignés dans les écoles de partout, dans tous les programmes de football. Là, il va en avoir à peu près, tu peux ressortir 200 matchs de Tom Brady là, que tu vas pouvoir enseigner, dire voilà ce qu'il faut faire. Ça fera partie des mauvais enseignements.
Ouais, voilà ce qu'il ne faut pas faire.
Est-ce que les Browns de 2020 sont mieux équipés que les 49ers de 2019, Jean?
Non, absolument pas. Les Niners étaient une équipe supérieure sur papier. Il y avait beaucoup plus de profondeur sur les lignes de mêlée, spécialement l'intérieur de la ligne défensive. Ouais. C'est des équipes qui se ressemblent quand même. Je suis d'accord qu'on peut faire une petite comparaison. Au niveau du carrière, t'as pas besoin d'un grand carrière présentement comme je sais pas, Aaron Rodgers, pour mener ces deux équipes-là, parce que l'attaque au sol est tellement solide, mais je pense vraiment pas qu'ils ont le même genre d'équipe que les Niners avaient en 2019. Donc, la réponse est non.
Non, l'avantage des Browns, c'est peut-être au niveau des receveurs de passe. T'sais, ils ont quand même de solides candidats. Mais je suis entièrement d'accord du côté de l'intérieur de la ligne défensive. T'sais, les Browns de Sheldon Richardson, mais quand tu compares ça à un DeForest Buckner l'an passé avec les Niners, t'es dans une autre catégorie de joueurs là, complètement. Ça a fait très mal aux Niners d'ailleurs. Je pense qu'on a un peu... t'sais, on a choisi de garder Eric Armstead parce qu'il était un peu moins cher. Mais Buckner est clairement un joueur de grande qualité là, par rapport à Armstead, qui est un bon joueur aussi, mais c'est pas du même niveau. Ça a fait très, très mal aux Niners. Mais je continue de penser qu'on n'en est pas là encore tout à fait avec les Browns. Les prochaines semaines nous le diront. Là, je pense qu'ils jouent contre les Steelers dimanche. Donc, un autre gros test devant eux.
OK, les gars, une question un petit peu hors sport ou hors football, ou en tout cas, on l'espère peut-être pour les partisans de New York, mais qui sera la prochaine équipe de la ville de New York à remporter un championnat?
Je sais pas, écoute, j'aurais le goût de te dire les Rangers, ça serait-tu pas assez beau ça, avec Alexis Lafrenière? Mais probablement que les Yankees vont y arriver avant. Là. Mais sérieusement, ce qui est chose certaine, baissez vos espoirs pour ce qui est des Giants et des Jets. Ça pourrait prendre encore plusieurs années.
Ça va être pénible. La section football, ça va être pénible. Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est les Yankees. Présentement, ils sont encore proches. Ils font les séries. Puis ils ont encore de l'argent. S'il y a un problème pour aller chercher un joueur ou deux, les Yankees devraient avoir un championnat, selon moi, dans les trois prochaines années.
Les Yankees ont de l'argent?
Oui, ils en ont un petit peu. Ils ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, Steph.
Ça, c'est sûr.
Hey, retour de notre chronique déprimé ou pas déprimé, les gars, rapidement. Est-ce que Matt Ryan est déprimé aujourd'hui?
Non, moi, je pense pas. Je pense qu'il il va retrouver Julio Jones qui risque de jouer la semaine prochaine. Donc ça va lui faire du bien. Puis moi, je pense qu'il va avoir un vent de renouveau qui va s'installer un peu avec les Falcons. Quand ça fait longtemps que tu mets toujours les mêmes pantoufles au même moment, des fois, ça fait du bien de juste sacrer les pantoufles dehors, s'en acheter des nouvelles ou pas pantoufles, puis essayer d'autres choses. Je pense que c'est ça qui peut se passer un petit peu avec les Falcons. Moi, je pense qu'il est même excité, Matt Ryan, présentement.
Moi, au contraire, je pense qu'il est déprimé. J'ai l'impression que Matt Ryan fait partie du problème à Atlanta. C'est pas le problème. C'est pas le problème. On s'entend qu'il y a des problèmes beaucoup plus criants que Matt Ryan à Atlanta. Mais c'est plus le corps arrière que c'était. Il a 35 ans. Il est beaucoup plus facile à frapper dans sa pochette. Là, il est beaucoup moins mobile. Deux années de suite là, qu'il y a des au-dessus de 40 sacs à ses dépens. C'était arrivé juste une fois entre 2008 et 2017. Puis tu parles d'Julio Jones. Oui, il va le retrouver, mais pour combien de temps? Je sais pas si ça pourrait pas être le fameux trade deadline. La date limite des échanges, c'est dans 3 semaines environ. Et puis, Julio Jones pourrait être un candidat, là, un joueur que tu pourrais bouger pour aller chercher tranquillement, pas vite, des munitions au repêchage, question de se refaire. Tu sais, les Falcons, ça fait plusieurs années qu'on joue un peu avec les mêmes pions, qu'on se dit, il y a tellement de talent dans cette équipe-là que la porte va lever à un moment donné. Là, j'ai l'impression qu'on sac le gâteau aux poubelles puis qu'on en recommence un autre. Et on est peut-être rendu là à Atlanta, donc... Pour ces raisons-là, là, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas de penser ça, mais j'ai le feeling que Matt Ryan fait plus partie tranquillement, pas vite, du problème que de la solution, et puis qu'il file pas nécessairement bien et doux ces temps-ci.
Moi, là-dessus, je te suis pas du tout, Stéphane, en passant. Moi, Matt Ryan, pour moi, ça n'est pas le problème des Falcons, c'est peut-être même le dernier des problèmes. Est-ce que les Falcons mettent du point sur le tableau indicateur? Ça fait 5 ans qu'ils mettent des points sur le tableau indicateur, mais ça fait 5 ans qu'ils en donnent un paquet. La défensive, il y a des trous partout. C'est là le problème des Falcons.
Ils donnent des points aussi parce qu'il y a beaucoup de revirements. C'est une attaque qui n'est pas disciplinée. Matt Ryan qui lance de plus en plus d'interceptions. Écoute, ben, là-dessus, on ne se rejoindra pas visiblement.
Hein. Non, absolument.
Mais Matt Ryan, moi je le répète, c'est pas le problème, mais il commence à faire partie du problème.
Mais c'est sûr qu'il est en train de vieillir. Il faut peut-être penser à une alternative.
Ouais.
OK, le gars qui fait les horaires de la NFL, lui, est-ce qu'il est déprimé ou il n'est pas déprimé?
Ouf. Il a tout un job ses bras, lui. Écoute, la NFL, là, on parle de 8 matchs recédulés là, à cause des derniers événements liés à la COVID. Puis je pense malheureusement que ça va continuer. Il va y avoir de moins en moins de coussins dans le calendrier. Tu sais, on parlait d'une possibilité d'amener une semaine 18.
Ouais.
On se dirige de plus en plus vers ça. Là, actuellement, tu as quoi? Je pense qu'il y a 6 équipes. Qui ont eu soit leur bail tel que prévu ou de manière forcée en raison de matchs reportés par la COVID. T'as de moins en moins de marge de manœuvre. Donc, ce pauvre gars-là, il se gratte la tête sur un moyen temps. Parce qu'en plus, non seulement il faut que le calendrier soit fonctionnel pour les équipes de la NFL, mais t'as les grands réseaux, le Fox, CBS, ESPN, tout ça. Ça tire la couverture chacun de leur part. Ça implore la NFL d'avoir tel match à telle heure, à heure de grande écoute, parce que, écoute, j'ai payé tel montant pour avoir ces droits de télé-là. C'est très, très, très complexe à gérer. Puis je pense que c'est malheureusement une réalité qui ne fait que commencer. J'espère que ça va faire comme au baseball. Écoute, on parlait d'annuler la saison à un moment donné, là, quelque part en juillet cet été, puis regardez où on en est, ça a très bien tourné. Donc, c'est pas une cause perdue, mais faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres chambardements.
Moi, je pense qu'il est tout simplement trop occupé là, pour être déprimé, Nicolas. Donc, la réponse pour moi, c'est non. Puis pour la semaine 18, moi, je pense que ça fait de plus en plus de sens de rajouter une semaine. Puis c'est quand Roger Goodell commence à être d'accord avec ça, on peut quasiment dire que c'est presque fait. Puis je pense encore que l'alternative des bulles pour les séries éliminatoires est encore est encore sur la table, ça va être étudié, même si j'ai vu que le médecin en chef de la NFL lui s'opposait à ça. Ça reste que c'est sûr que c'est un scénario qui est sur la table.
On parle déjà des villes de Dallas et Los Angeles comme bulles potentielles. Tu sais, quand les villes commencent à sortir comme ça, des fuites dans les médias, c'est que le scénario est sérieusement étudié.
Est-ce que Dwayne Haskins est déprimé ou il n'est pas déprimé?
Bonne question. Moi, je dirais qu'il est peut-être...
Il n'était pas sur le banc en fin de semaine. Hein?
Il est peut-être un petit peu déprimé. Écoute, on sait que les jeunes joueurs, ils sont plus facilement...
les millennials.
Oui, exactement. Ils sont plus proches de leurs sentiments. Puis là, ça faire donner un petit peu là, une leçon de vie par ton entraîneur-chef, ça va peut-être l'amener à consulter Dwayne Haskins. Par contre, est-ce que c'est peut-être la meilleure chose pour lui, pour sa carrière? L'avenir nous le dira tout simplement, messieurs.
Ouais, Dwayne Haskins, c'est pas une situation évidente. Tu sais, être dans ses souliers, t'essaies d'être positif puis de te dire que c'est temporaire. Mais il reste que il est arrivé là, Dwayne Haskins. Tu sais, j'avais une chronique là-dessus en fin de semaine, puis je vais pas la redire, mais juste résumer un peu. Son entraîneur-chef de l'époque, Jay Gruden, le voulait pas. Tu sais, c'était plus le fantasme du propriétaire Dan Snyder qui s'est encore une fois pas mêlé de ses affaires. Il arrive un nouvel entraîneur-chef, Ron Rivera, qui est clairement pas entiché de lui, là. Donc, il est entre deux chaises tout le temps, le pauvre Dwayne Haskins. Est-ce que il y a des chiffres qui méritent un séjour sur le banc en ce moment? Pas nécessairement. Il n'y a pas un si mauvais début de carrière. Il n'est pas étincelant. Mais écoute, il y a 11 départs en carrière. On pourrait lui donner une chance. Mais je pense que c'est clairement une question d'attitude. Je pense qu'on veut lui passer un message. Il y a clairement un travail, que ce soit mental ou de préparation physique, qui se fait pas nécessairement comme Ron Rivera le voudrait. Puis c'est plus là le nœud du problème que sa performance comme telle sur le terrain.
Écoute, je lisais que t'sais, Ron Rivera, c'est un coach de la vieille école. Ouais. Puis je lisais que t'sais, Dwayne Haskins, il est arrivé en retard à quelques séances. Ça, c'est le genre de choses qui passent pas, surtout avec un gars comme lui. Fait que pour moi, le message est clairement là, hors terrain. Pour Dwayne Haskins.
OK, les gars, on va finir avec votre joueur fantasy à aller chercher cette semaine. Pas facile, je vais faire du fantasy avec tous ces matchs remis, mais si vous aviez le choix d'aller chercher quelqu'un sur le waiver, qui iriez-vous chercher?
Moi, écoute, j'ai deux noms qui me viennent en tête. J'aurais le goût d'y aller avec Damien Harris. Bon, les Patriots qui n'ont pas joué cette semaine, là, COVID oblige. Mais lorsqu'il est embarqué sur le terrain pour la première fois la semaine passée, j'ai trouvé qu'il a très bien fait. Il courait de manière décisive, ce qui a manqué des fois aux Patriots avec Sonny Michel dernièrement. Puis Sonny Michel, qui a beaucoup de problèmes depuis le début de sa carrière, a demeuré en santé. Tu sais, c'est un joueur fragile, manipulé avec soin, là, disons. Puis l'autre nom que j'aurais en tête, qui est en train d'éclore à Philadelphie, le receveur Travis Fulgham, Il y a une place à prendre clairement à Philadelphie. Alshon Jeffrey qui finit pas de d'être incapable de revenir au jeu, c'est un autre ça qui est toujours blessé.
Oui, exact. En parlant de manipuler avec soin,
ça Colin, ça finit pas de finir ses blessures. Donc lui arrive, Foljam, il a fait un gros toucher là, dans la seule victoire des Eagles cette saison. Puis il a répété en fin de semaine avec autour de 150 verges de gain. Semble clairement devenir la cible préférée de Carson Wentz. Donc, est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça va durer? On ne sait pas pour l'instant, mais ça vaut la peine de prendre une chance. Là, toujours dans l'optique, comme je le dis à chaque semaine, d'un alignement plus question profondeur. On va plus chercher de grandes vedettes à ce stade-ci de la saison.
De mon côté, écoute, pourquoi pas se tourner vers un rouquin?
Oh oui, bien sûr.
Andy Dalton. Écoute, les Cowboys, ça reste que c'est une attaque qui mettait beaucoup de points en fantasy. Puis là, t'as Andy Dalton qui se pointe, qui est quand même un carrière qui est capable de,
ouais,
de tenir son bout là, dans la NFL. Il a quand même eu une saison où il a été candidat au joueur le plus utile. Moi, je pense que ça va être un... Écoute, ça sera peut-être pas aussi explosif comme attaque avec les Cowboys, avec lui, mais ça reste qu'il va mettre beaucoup de points, selon moi, sur... le tableau indicateur. Donc, pour moi, c'est un bon guess, comme on dit. Sinon, peut-être Justin Jackson, running back des Chargers. Il y en a qui disent, ouais, c'est Joshua Kelly qui est là. Écoute, ceux qui ont vu le match des Saints, j'ai vu Jackson beaucoup plus explosif que Kelly. Puis, ils sont à peu près 50-50, je dirais, dans le ratio. C'est peut-être une bonne acquisition à aller chercher.
J'adore ton pic de Dalton parce que Dalton, là, je trouve qu'il est tellement mal aimé injustement. Tu sais, c'est pas un grand corps arrière, mais il a fait de bonnes choses à Cincinnati. Il est capable de jouer. Tu sais, les Cowboys, sincèrement, doivent se féliciter aujourd'hui de l'avoir
signé. Oui, c'est vraiment une bonne signature, effectivement. Ils ont quelque chose.
C'est ça. J'espère qu'il ne nous fera pas mentir là, si c'est un désastre. Mais sincèrement, je pense que c'est dans le malheur qu'ils vivent actuellement, là, c'est la meilleure nouvelle qu'ils ne pouvaient pas espérer que Andy Dalton soit là.
Mais même si il est pas si bon que ça, mettons, sur le terrain, ça reste qu'il va mettre des points en fantasy. Parce que les Cowboys, écoute, leur défensive sera pas bonne du jour au lendemain, là. Donc, ça se peut qu'ils tirent de l'arrière, ça se peut que ce soit à haut pointage encore les matchs des Cowboys. Selon moi, d'une façon ou d'une autre, ils vont mettre des points fantasy sur le tableau.
Merci les gars, on fait une pause et après la pause, on s'intéresse à la semaine 6 de la NFL avec vos prédictions. Restez là.